Et le journal est présenté par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. L'armée israélienne manque de soldats pour lancer son offensive sur Rafah. L'État hébreu doit mobiliser des troupes en Cisjordanie et à la frontière libanaise, ce qui limite ses opérations à Gaza. Nous serons avec Thibault Lefebvre à Jérusalem dans un instant. Il y a 20 ans, Al-Qaïda frappait Madrid, 192 morts dans l'attentat islamiste le plus meurtrier sur le sol européen. Le reportage de Mathieu Le Taillac dans cette édition. La France, deuxième pays exportateur d'armes au monde, grâce à ses avions Rafale notamment, l'industrie française est passée devant la Russie dans un classement dominé par les États-Unis. Demain l'écho, notre rendez-vous hebdomadaire consacré ce soir à la réparation des appareils électroménagers. La spécialiste de la société Murphy que nous présentera Annabelle Grelier. Joe Biden avait espéré une trêve militaire à Gaza pour le Ramadan. Il n'en est rien alors que vient de débuter le mois sacré des musulmans. Les combats se poursuivent entre les Israéliens et le Hamas dans l'enclave palestinienne assiégée et dévastée. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, lance un nouvel appel solennel à faire taire les armes et à libérer les otages. On retrouve à Jérusalem Thibault Lefebvre. Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Au 157e jour de guerre, Thibault, il y a des combats à Khan Younes et la menace israélienne plane toujours sur Rafah, même si la situation est délicate pour l'armée israélienne.
Près d'un mois que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou affirme à qui veut bien l'entendre que son armée livrera la bataille de Rafah dans ce qu'il considère être le dernier bastion du Hamas. Sur le terrain, c'est beaucoup moins clair. Il n'y a aucun plan concret d'évacuation du 1,5 million de déplacés. Les troupes israéliennes combattent depuis plusieurs semaines maintenant à Khan Younes, c'est à une dizaine de kilomètres au nord, et elles ont du mal à prendre le contrôle de cette grande ville. La raison essentielle, c'est le manque d'hommes. Au début de l'année, l'armée a démobilisé 5 brigade à Gaza. Il en reste à peu près autant dans l'enclave et c'est aujourd'hui insuffisant pour mener la bataille de Rafah.
Et si l'armée israélienne manque d'hommes à Gaza, c'est parce qu'elle est occupée ailleurs, Thibault.
Oui, au nord, où le Hezbollah est plus menaçant que jamais depuis le 7 octobre, l'envoi régulier de roquettes en provenance du Liban ne permet pas à l'État hébreu d'alléger son dispositif. Et puis en Cisjordanie occupée, où la situation est inflammable avec les restrictions de déplacement imposées à la population palestinienne, à Gaza et à Rafah, Israël est donc contraint d'attendre, alors que les États-Unis sont bien décidés à ne pas laisser leur allié aggraver encore une catastrophe humanitaire inédite par sa gravité et par son ampleur.
Thibault Lefebvre, correspondant à Jérusalem, merci. L'État d'Israël, prêt à respecter la liberté de culte des musulmans, affirme son ministre de la Défense, mais Yoav Gallant lance aussi un avertissement aux Palestiniens. Nous disons à tous, ne nous cherchez pas, nous sommes prêts, ne commettez pas d'erreur, ajoute le ministre. On revient sur la situation à Gaza dans le temps du débat avec Emmanuel Laurentin, juste après ce journal. Il y a 20 ans, l'Espagne était victime du pire attentat islamiste commis sur le sol européen. 192 morts et plus de 1800 blessés à la gare d'Atocha à Madrid le 11 mars 2004. Attentat revendiqué par Al-Qaïda pour punir l'Espagne engagée aux côtés des États-Unis dans la guerre en Irak. La cérémonie de commémoration a rassemblé aujourd'hui le couple royal espagnol, le chef du gouvernement Pedro Sanchez et des représentants de la Commission européenne. Mathieu Le Taillac nous appelle de Madrid.
Les autorités ont prononcé leur discours, le roi Felipe VI a demandé que l'attention aux victimes soit plus efficace et la coopération internationale renforcée, Pedro Sanchez a revendiqué le vivre ensemble et le respect, et puis Maria Cristina, dont le mari est mort dans les attaques, s'est exprimée. Comme à chaque anniversaire, elle revit les moments tragiques.
Querido diario, son las 7 de la mañana.
Cher journal, il est 7 heures. Je suis réveillée et j'attends, comme tous les 11 mars, qu'il soit 7h37. On ne peut pas éradiquer le mal qui constitue explicitement et implicitement le terrorisme, mais on peut l'affronter en évitant de laisser seules les victimes. Être à nos côtés n'est pas une tâche facile. C'est l'endroit du courageux. C'est le chemin à suivre. Et aucun autre.
Este y no otro es el camino a seguir.
Au-delà de l'émotion, Maria Cristina a dit sa déception que le crime arrive 20 ans après à la prescription et qu'il ne soit pas considéré de lèse-humanité. Au-delà du souvenir et de l'hommage, les victimes demandent que leurs revendications soient prises en compte par les institutions.
Mathieu de Taillac, correspondant de France Culture en Espagne. Les uns après les autres, les diplomates occidentaux quittent Haïti. Après les États-Unis et l'Allemagne ce week-end, c'est au tour de l'Union européenne d'évacuer son personnel encore présent dans la capitale Port-au-Prince. Le pays est livré aux gangs qui réclament la démission du Premier ministre Ariel Henry pour trouver une solution à la crise sécuritaire haïtienne. Une réunion d'urgence se tient en ce moment en Jamaïque en présence des Américains au Marwaman.
Signe de l'importance de ce sommet sous l'égide de la communauté des Caraïbes, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a fait le déplacement à Kingston ainsi que les représentants de la France, du Canada et des Nations Unies. Au menu de cette réunion d'urgence, des négociations pour mettre en place une transition politique en Haïti avant le déploiement d'une force internationale pour ramener l'ordre. Mais en l'absence de membres du gouvernement haïtien et notamment du Premier ministre Ariel Henry, toujours bloqué à Porto Rico, l'issue de ce sommet semble très incertaine. Les gangs qui contrôlent la capitale Port-au-Prince réclament sa démission avant d'envisager la moindre transition politique. En attendant, la situation ne cesse de se dégrader. Ces derniers jours, les groupes armés ont attaqué de nombreux sites stratégiques comme le palais présidentiel, le port ou l'aéroport, ainsi que le commissariat central, ce qui a poussé l'Union européenne a évacué aujourd'hui l'ensemble de son personnel, à l'instar de l'ambassade d'Allemagne dimanche et des États-Unis qui ont rapatrié par hélicoptère une partie de leurs employés.
Omar Waman, envoyé spécial de Radio France dans les Caraïbes. Alors que les conflits armés s'intensifient dans plusieurs régions du monde, la France est désormais le deuxième exportateur mondial d'armement, une première dans son histoire. Les ventes françaises ont augmenté de 47% ces cinq dernières années par rapport à la période 2014-2018. La France a pris la place de la Russie sur un podium toujours dominé par les États-Unis. Et pourtant, Mathieu Laurent, ce n'est pas la guerre en Ukraine qui explique le succès des armes françaises dans le monde.
Non, mais c'est cette guerre qui a délogé de peu Moscou de la deuxième place de ce classement que l'on doit au Stockholm International Peace Research Institute.
La Russie, qui depuis 2 ans recentre complètement le fruit de son industrie de défense sur sa consommation propre et donc plus sur l'exportation.
Léo Peria-Peignet, chercheur en armement et industrie de défense à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Et
ensuite, une série de gros contrats remportés notamment par Dassault sur son avion de combat, le Rafale, qui ont énormément grossi les chiffres. En fait, si vous regardez les chiffres de l'export français, vous voyez quand même que tout ce qui est Rafale et services et munitions autour du Rafale vont tirer vers le haut très majoritairement l'ensemble de l'exportation d'armement française.
La France, dont les principaux clients se trouvent hors de l'Union européenne, avant tout dans le Golfe arabique.
Vous allez avoir l'Arabie saoudite et surtout vous allez avoir le Qatar et surtout les Émirats arabes unis pour ce qui est du Rafale, puisque ces pays ont fait des grosses commandes qui supposent aussi des contrats importants en termes d'entraînement, de maintenance, de pièces et de soutenabilité de l'appareil.
Enfin, fait majeur, l'Inde boude la Russie et se tourne davantage vers la France. New Delhi qui a acheté 29% des Rafales exportées entre 2019 et 2023.
Mathieu Laurent, merci. L'Union européenne va renforcer les droits des travailleurs des plateformes numériques type Uber ou Deliveroo. Après plusieurs semaines de blocage, les États membres de l'UE ont trouvé un accord aujourd'hui à Bruxelles. Accord négocié sous l'égide de la présidence belge de l'UE qui promet, je cite, « de meilleures conditions de travail pour les livreurs de repas à domicile ». Pierre Benazet, bonsoir.
Bonsoir.
En direct de Bruxelles, Pierre, les plateformes numériques emploient plus de 28 millions d'Européens.
Oui, effectivement, et les ministres de l'Emploi et de la Politique sociale ont fini par valider ce lundi le texte qui accorde aux travailleurs des plateformes une présomption de salariat. Ils sont effectivement 28 millions d'Européens qui travaillent pour les plateformes numériques, qu'il s'agisse de chauffeurs ou de livreurs de repas à domicile. En fin de compte, le texte ressemble trait pour trait à celui qui avait emporté l'accord avec le Parlement européen il y a un mois. L'Europe fixe une série de critères, le fait qu'une plateforme fixe des niveaux de rémunération, qu'elle supervise à distance les prestations, qu'elle permette pas à ses employés de choisir leurs horaires ou de refuser des missions, l'uniforme ou encore qu'elle interdise de travailler pour d'autres entreprises. Il pourrait y avoir d'autres critères ajoutés par les États membres, mais si un travailleur correspond à au moins 2 de ces critères, il sera considéré comme un employé. Il aura ainsi droit à ce que prévoient les législations nationales, salaire minimum, temps de travail, indemnité maladie, normes de sécurité, etc. Environ 5,5 millions de travailleurs en Europe devraient pouvoir ainsi modifier leur statut, selon la Commission. Il reste cependant une étape dans la procédure avant le feu vert définitif, parce que la France a demandé cet après-midi que la Commission européenne ajoute une note de bas de page pour préciser que ce ne doit pas être une procédure automatique, mais qu'il y ait effectivement des étapes à suivre.
Pierre Benazet en direct de Bruxelles, merci. Il y aura une loi sur la fin de vie, annonce Emmanuel Macron dans une interview à deux journaux, La Croix et Libération. Le chef de l'État explique ce matin le cadre législatif qu'il envisage, ni euthanasie, ni suicide assisté, mais une aide à mourir strictement encadrée. Emmanuel Macron évoque aussi une stratégie décennale pour les soins palliatifs avec une enveloppe supplémentaire d'1 milliard d'euros. Cela ne suffira pas à répondre aux besoins, explique Véronique Lefebvre-Desnouettes. Elle est psychiatre en gériatrie à Limeil-Brévannes dans le Val-de-Marne.
C'est un effet d'annonce. 1 milliard, c'est rien, saupoudré sur la France et les dom-tom. 21 départements qui ne sont pas encore pourvus. Ce dont on a besoin, c'est du personnel appétent et compétent. Dans mon hôpital gériatrique de 1000 lits, je n'ai que 4 lits de soins identifiés, soins palliatifs. Je n'ai pas d'unité de soins palliatifs. Nous avons une toute petite équipe mobile à temps partiel. C'est évidemment totalement insuffisant. Alors que ce sont les personnes âgées qui décèdent, bien entendu, sur les 651 000 décès par an. C'est les plus de 80 ans qui décèdent. Ce sont mes malades. La technique, on la maîtrise, mais il faut des êtres humains, il faut des personnes humaines. Il faudrait pouvoir les déployer aussi au domicile, et c'est pas fait.
Véronique Lefebvre-Desnouettes, psychiatre en gériatrie, elle répondait à Servane de Pastre. La réforme de la sûreté nucléaire est de retour à l'Assemblée. Le gouvernement espère rétablir un article clé de son projet de loi sur la fusion entre l'ASN et l'IRSN. D'un côté, le gendarme du nucléaire, de l'autre, l'expert technique du secteur. L'opposition avait fait passer un amendement, rejetant cet article, et la gauche défend désormais une motion de rejet portée par le groupe Liotte. On retrouve à l'Assemblée Sophie Delpont.
Sur une même estrade, pro et anti-nucléaire de gauche ont appelé à rejeter le projet de fusion de l'ASN et de l'IRSN, à l'image de la députée écologiste Julie Laernos.
C'est extrêmement grave en réalité ce qui est en train de se passer. Et nous sommes aujourd'hui le 11 mars, et donc la date d'anniversaire de Fukushima.
Sébastien Jumel, député communiste, met en avant son profil de pro-nucléaire convaincu.
Moi j'habite à côté de deux centrales nucléaires, Paluel et Pony. Je suis le député qui va accueillir la paire d'EPR après Flamanville.
Maxime Lainé, député La France Insoumise, lui emboîte le pas et lance un appel aux députés de la majorité et de la droite.
J'invite les collègues qui sont convaincus, sincèrement, qu'il faut relancer le nucléaire, qui pensent que c'est la solution, et bien précisément à ne pas voter cette fusion, à ne pas casser ce qui fonctionne, à ne pas briser la confiance relative des Français dans quelque chose qui fonctionne. C'est à ça qu'on les invitera ce soir en votant la motion de rejet.
À l'extrême droite, en revanche, le député Rassemblement National, Nicolas Dragon, qui avait voté contre le projet de fusion de l'ASN et de l'IRSN en commission, devrait changer de position dans l'hémicycle, comme son groupe.
Mais bien évidemment, si on fait une relance du nucléaire, il faut pouvoir fluidifier toutes les étapes, les procédures qui vont du premier coup de pioche qu'on donne à la sortie du réacteur et à la mise en service d'un réacteur, et fusionner l'ASN avec l'IRSN permettra d'activer cette relance qui est attendue par les Français et nos entreprises. Et il y a urgence.
Le Rassemblement national ne votera pas non plus la motion de rejet portée par le groupe Liotte, Liberté et Territoire. Motion de rejet soutenue par la gauche.
Sophie Delpont depuis le Palais Bourbon. Plusieurs services de l'État font depuis hier l'objet d'attaques informatiques d'une intensité inédite, mais leur impact à ce stade a été réduit et l'accès au site de l'État rétabli. Voilà ce qu'a appris l'AFP auprès de Matignon. Une cellule de crise a été activée dès hier soir pour déployer des contre-mesures, expliquent les services du Premier ministre sans plus de précision à ce stade. Cette information qui vient de nous parvenir, le tribunal administratif de Paris maintient l'expulsion de l'imam Hassan Iqiyoussen. L'imam marocain avait été expulsé l'année dernière. Notre chronique Demain l'écho est consacrée ce soir à la réparation des appareils ménagers. Une solution pour éviter de racheter systématiquement du neuf. Encore faut-il trouver un réparateur disponible. La mise en place d'un bonus réparation en 2022 ne suffit pas à convaincre tous les consommateurs. Et pourtant, de jeunes entreprises ont investi avec succès le créneau de la réparation. Exemple, la société Murphy qui intervient à domicile. C'est un reportage d'Annabelle Grelier.
Au total, 28 millions d'appareils électroménagers tomberaient en panne chaque année. Mais selon l'ADEME, seuls 44% d'entre eux sont réparés, et encore moins si le produit n'est plus sous garantie. De quoi créer des tonnes de déchets et de matières premières gaspillées. Mais réparer n'est pas si simple. Déjà, il faut trouver un réparateur près de chez soi, et pour profiter du bonus réparation mis en place par le gouvernement depuis 2022, un réparateur labellisé. Face à la pénurie de main-d'œuvre, Murphy a décidé de prendre les choses en main, nous explique sa directrice Aurélie Firkovitz.
Au début, on a commencé à chercher à recruter, il n'y en avait pas. Bon, on s'est dit, en fait, on n'a pas le choix. On va créer notre propre école de formation, qui est vraiment un peu différente peut-être de la formation qui existait, parce que nous, on répare hors garantie. C'est-à-dire que les gens, les réparateurs qui ont été formés chez nous, ils ont appris à comprendre comment fonctionne chaque appareil, parce que vous pouvez avoir une panne, mais qui en fait en cache d'autres. Donc c'est important d'enquêter. Donc on a fait une formation extrêmement pratique. Et du coup, on a des formateurs qui sont hyper expérimentés et qui arrivent à former beaucoup de personnes, puisqu'on en forme à peu près 200 par an.
350 salariés, 5 ateliers aux quatre coins de la France, les techniciens de Murphy interviennent à domicile dans une quinzaine de villes. À grand renfort de publicité, l'entreprise se fait connaître et grandit vite. En 2023, elle réalise un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros, une réussite qui correspond à une demande croissante sur une offre simple.
Il y a une idée reçue que les Français pensent qu'une réparation coûte environ 200-250 euros, ce qui n'est pas le cas puisque c'est 140 euros en moyenne avec les pièces. Après, ils ont peur que la réparation ne tienne pas, que ça prenne beaucoup de temps. Et en fait, on a pris chacun des freins et on a essayé de proposer quelque chose de vraiment différent. Donc, par exemple, on intervient en 48 heures. On a une garantie de 6 mois aussi sur la réparation. Si jamais ça ne tient pas ou il y a un problème, on revient entièrement pris en charge par Murphy. L'objectif, c'est vraiment de moins voir le réflexe en deux clics de commander et de se faire livrer un produit qui vient de l'autre bout du monde, alors que quand même la réparation, ça crée de l'emploi en France.
Murphy se positionne aussi sur le marché du reconditionné. Dans son entrepôt de Bobigny, des centaines de machines à laver et sèche-linge y sont réparées et testées.
Rien que dans cet atelier-là, on reconditionne à la semaine une centaine d'appareils et on réceptionne toutes les semaines un peu plus de 200 machines.
Antoine Leclésio, directeur du site.
On va leur faire ce qu'on appelle un pré-diagnostic. Donc on va vérifier ce qu'elles ont, si elles sont reconditionnables, si ça vaut le coup. Et si oui, on va passer par plusieurs points de sécurité, de contrôle pour changer les pièces d'usure, changer les pièces abîmées, la nettoyer, la remettre à neuf et ensuite la prendre en photo, la ranger pour pouvoir la vendre sur notre site internet.
Avant de changer d'appareil, mieux vaut donc y regarder à deux fois, car une panne sur deux n'est due qu'à un mauvais entretien et ne nécessitera que peu de réparations. Sourire de satisfaction, Jean-Yves vient en 20 minutes seulement de remettre en état de marche cette machine à laver de grande marque.
On a changé le joint hublot, donc la manchette, qui fait l'étanchéité entre le tambour et le hublot.
C'était ça le problème ?
C'est ça le problème, oui.
C'est pas une grosse panne finalement ?
Non, c'est pas une grosse panne. Quelqu'un de bricoleur et qui trouve la pièce est capable de le faire. Il faut être délicat, il faut être méthodique, sinon on risque d'abîmer l'appareil.
Technicien réparateur, il a suivi la formation à la Murphy Academy, une formation conçue en interne et financée par Pôle emploi, avant de signer un CDI il y a quelques mois. Une reconversion réussie.
Ah, moi j'adore ça, j'ai toujours aimé bricoler et réparer. Là non, c'est un métier très intéressant. Le fait de recycler, je trouve ça vraiment bien. D'éviter de gâcher, de nos jours, c'est vraiment un point d'honneur. Personnellement, moi même à la maison, il y a eu du gâchis. Oui, j'ai jeté un lave-linge, un sèche-linge, bêtement, parce que je ne savais pas les réparer, mais aujourd'hui je ne le ferai plus.
Après deux levées de fonds et l'entrée au capital récemment du Crédit Agricole Assurance, les cinq fondateurs de Murphy, qui restent dans le giron de l'économie sociale et solidaire, visent la rentabilité de leur modèle pour 2025.
Demain, l'écho, Annabelle Grelier, un podcast et un article à retrouver sur franceculture.fr. Anatomie d'une chute n'a pas décroché la nuit dernière l'Oscar du meilleur film. La plus prestigieuse des statuettes d'Hollywood est revenue à Oppenheimer de Christopher Nolan. Mais le film de Justine Trier a tout de même obtenu une nouvelle récompense, l'Oscar du meilleur scénario original que la réalisatrice a signé avec son compagnon Arthur Harari. Palme d'or à Cannes et deux fois primé aux Golden Globes, Anatomie d'une chute a déjà attiré plus d'un million de spectateurs à l'étranger. Un succès pour le cinéma français d'auteur dont se réjouit Daniela Elsner, directrice d'Unifrance, l'organisme chargé de la promotion à l'étranger des films tricolores.
Le cinéma français a toujours su se renouveler, mais là, c'est aussi un nouveau cinéma. On a beaucoup de femmes aussi qui font du cinéma. Justine Trier a porté déjà depuis plusieurs films. Elle va à l'étranger avec ses films, elle l'accompagne beaucoup. Et surtout, là, on a la critique en France, à l'étranger. On a le public en France, à l'étranger. C'est vrai que c'est quand même très exceptionnel. Et ça donne surtout envie au public du monde entier de voir des films qui viennent d'ailleurs, des films qui ne sont pas forcément en langue anglaise et qu'ils peuvent découvrir quelque chose que peut-être un cinéma américain de studio ne permet pas.
Qu'est-ce que ça promet pour la suite pour le cinéma français ?
Je crois que ça relance la France et ça relance surtout le cinéma indépendant qui peut venir aussi d'autres pays. Le cinéma européen, je crois qu'il faut aussi beaucoup réfléchir. Évidemment, c'est la France ce soir avant tout, mais c'est aussi l'Europe. Il y a eu beaucoup de films nommés européens. Donc c'est aussi ça qu'il faut mettre en avant aujourd'hui. Et les Oscars mettent aussi en avant des films qui donc viennent de l'Europe conquérir l'Amérique. Et ça, c'est une deuxième victoire dans cette belle soirée des Oscars.
Daniela Elsner, directrice d'Unifrance, jointe au téléphone par Éric Chavroux. Les intempéries dans le sud-est ont fait une cinquième victime, un homme de 87 ans dont le corps a été retrouvé aujourd'hui dans le fleuve Hérault, à proximité de son véhicule tombé à l'eau. Trois personnes restent portées disparues, un homme en Ardèche et deux enfants dans le Gard. Demain, le temps restera pluvieux au nord, mais ensoleillé au sud. Les températures minimales iront de 4 à 10 degrés. L'après-midi, il fera entre 11 et 19 degrés du nord au sud. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun.